Oui, moi, j'ai beaucoup de peine à argumenter sur la discussion en cours là, qui s'amorce, qu'il faut certainement poursuivre, parce que sans doute on est sur des champs un peu différents. Moi, je suis très intéressé par l'idée de d'essayer de donner un statut différent à la notion d'intimité dans le rapport au public et au privé. Je trouve ça très important. Je crois que nous, au Cresson, c'est des choses qu'on a aussi un petit peu discutées de manière latente, disant comment est-ce que cette sphère-là peut, en fait, jouer une sorte de position tierce par rapport à l'opposition classique entre le public et le privé. Il y aurait une première question, c'est que j'ai le sentiment que l'intimité telle qu'elle a été définie se joue dans son rapport de révélation à l'espace public, et au fond la relation entre une sphère intime et une sphère privée elle n'est pas discutée. Et pour moi, une des hypothèses que je pourrais faire, c'est que le surgissement de possible de l'intime est indépendant du rapport entre le public et le privé. Je veux dire qu'il peut surgir et dans l'expérience et dans l'observation, aussi bien dans l'espace privé que dans l'espace public. Alors, et à ce moment-là, j'ai tendance à essayer de modéliser cette chose-là comme un système ternaire où la représentation de l'intimité, la façon dont l'intime se constitue, dont la relation intime se construit, est autonome par rapport à la façon dont la privacité se met en place ou dont la publicité se met en place. C'est-à-dire que ça devient à ce moment-là trois types une représentation sous forme de trois instances dont les interrelations vont peut-être définir quelque chose qui est de l'ordre du politique ou de l'ordre du fonctionnement, d'une représentation possible d'une ambiance, justement, qui serait plus, l'ambiance ne serait plus du côté de la sphère sensible, différenciée par rapport à une sphère fonctionnelle, une sphère sociale, mais plutôt dans un mode d'articulation entre ces trois instances-là. Alors, ça, c'est une des choses. Du coup, j'ai un peu des questionnements sur les concepts utilisés, sans que j'arrive il faudrait beaucoup plus de travail pour que j'arrive à formuler une question absolument précise, mais où, par exemple, lorsque on parle d'exhibitionnisme de l'intime, ou de la façon dont, justement, ce processus d'esthétisation repose sur la façon d'exhiber de l'intimité. Est-ce qu'il est encore
de l'ego?
Alors j'ai mal noté. Alors
il n'y a pas d'exhibitionnisme de l'intimité. Hein. Je vous
d'accord.
Après.
Ouais.
Je peux vous répondre.
Bon, alors j'ai mal noté, mais c'est un peu sur la définition même de l'intime. Est-ce qu'il est encore légitime de parler de l'intime? Mais ma question tombe puisque tu as parlé d'ego et pas d'intime. Il n'y a pas d'exhibition possible de l'intime, parce qu'à ce moment-là on arrive à une extimité, une externalité, je sais pas quoi. Mais en effet, est-ce que l'intimité ne repose pas sur la relation interpersonnelle, et à partir du moment où elle est exhibée, elle se révèle dans un espace public, elle disparaît, ou elle se déplace.
Non, c'est plus... Enfin, moi, je ne vois pas ça comme ça, non. C'est-à-dire que, d'abord, l'intimité, pour moi, c'est une hypothèse. C'est-à-dire que c'est pas on ne sait pas si ça existe vraiment. C'est-à-dire que c'est une... On peut avoir une assurance de ce qu'on peut désigner comme étant notre espace privé, mais par contre, qu'est-ce que ça veut dire les choses intimes, par exemple? On peut aussi dire qu'on échange des choses intimes, mais à partir du moment où on les échange, elles ne le sont plus. Et à la limite, la représentation qu'on peut avoir de l'intime, c'est un peu à l'image, ça serait analogique à l'emboîtement des poupées russes, ou les gigognes, ou les tables gigognes. C'est-à-dire ou à l'idée, par exemple, qu'un train peut en cacher un autre. Ça veut dire toujours, je prends ces trois images, pour bien montrer l'idée que, en fait, le secret dévoilé se reconstitue d'autres secrets indéfiniment. C'est-à-dire qu'au fond, l'intimité, c'est une chose vachement ambiguë parce que elle peut se dévoiler et à ce moment-là, dans un certain sens, elle s'annule. Et elle peut aussi être une représentation qu'on a de quelque chose qui est en nous, mais à la limite sans contenu. C'est-à-dire que c'est une forme quelque part. L'intimité, c'est plus une forme qu'un contenu. À partir du moment où on énonce des choses intimes et donc on donne un contenu à cette intimité. Bon, est-ce que c'est encore de l'intime quelque part? C'est ça le problème, c'est que il y a un aspect complètement insaisissable et purement formel de l'intime qui fait que ça reste surtout une hypothèse qu'on pose. Alors, il y a évidemment les poètes comme Henri Michaux Blanchot qui parlent de l'espace du dedans. Mais pour eux, ils n'emploient pas le mot intime vraiment. C'est-à-dire que l'espace du dedans, c'est quelque chose qui effectivement nous est inaccessible quelque part, mais qui peut l'être de façon incongrue, qui peut émerger de façon complètement accidentelle et qui peut prendre une forme d'expression, ne serait-ce que une forme poétique ou je ne sais quoi, ou d'autres choses. Mais cet espace du dedans, il n'est pas vraiment désigné comme étant l'intimité par ce genre d'écrivain, quoi, ou de poète. Mais ça évoque quelque chose qui fait qu'on a peut-être un espace du dedans. Mais c'est pareil, c'est toujours de l'ordre de l'hypothétique, quoi. Mais on a besoin de cette représentation.
C'est de l'ordre hypothétique, mais c'est quand même une expérience qui, pour le coup, est partagée. C'est-à-dire que le mot permet de désigner...
Ce qu'on partage, c'est une certaine représentation des choses intimes, de ce qu'on dévoile, etc. Oui,
disons que c'est une représentation d'une expérience qui est vécue par un peu tout un chacun, qui est le rapport secret à l'autre. C'est le fait, enfin, j'aime bien cette définition du secret qui dit que c'est une chose qu'on ne dit qu'à une seule personne à la fois. C'est cette idée... Et en effet, ça se déplace, ça se reconduit à mesure qu'on le délivre, quoi. Mais il n'empêche que je trouve que, à ce titre-là, c'est très intéressant par rapport à la question du sensible, dont le paradoxe est bien que, à partir du moment où on en donne une représentation, il ne l'est plus, quoi. Mais il n'empêche que... On cherche des mots pour exprimer cette expérience-là, quoi.
Oui, mais par exemple, enfin, je terminerai juste là, mais par exemple, par rapport à la privaticité, la sphère privée, où on a des signes symboliques, ostensibles, il y a un côté ostensible du privé, même parfois ostentatoire d'ailleurs. Mais l'intime, peut très bien se dire, par exemple, un jour, on dit quelque chose qui a l'air d'être intime, et le lendemain, on va dire autre chose en pensant que ce qu'on a dit, c'était pas forcément intime, etc. C'est-à-dire que c'est complètement malléable, quoi, quelque part. Ou le terme le plus juste, ça serait une labilité de l'expression intimiste, mais une labilité permanente, quoi.
Oui, en même temps, paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est de se questionner sur sa stabilité, derrière cette labilité.
Mais c'est une stabilité formelle, en fait, c'est pas des...
Oui,
Et on est et aussi s'interroger sur le fait que soi-même, on esthétise l'intime aussi. On s'auto-esthétise dans l'intime. Mais tout ça étant d'hypothèse, quoi, quelque chose qui est en même temps très fugitif.
Bon, moi, il me semble que malgré cette labilité, le fait de nommer une espèce de champ ou d'expérience derrière cette notion d'intimité permet de d'ouvrir une espèce de polarité tierce entre le champ de la privacité et le champ de la publicité. Alors, bon, ça, c'est une première chose. Après, j'ai tendance à faire une homologie entre vos deux exposés, et où je trouve extrêmement intéressant cette hypothèse du passage du régime d'un régime de convivance à un régime de survivance, qui peut-être justement pourrait être présenté aussi comme le passage d'un système dans lequel il y avait partage sensible, il y avait partage sensible comme séparation instituée entre l'espace privé et l'espace public, et bon, en l'occurrence entre le local et le global, entre le centre et la périphérie, entre toutes sortes de choses qui fonctionnent et qui fonctionnaient sur un système dual qui était en quelque sorte institué, dans lequel l'activité politique consistait à réaffirmer ou à répartir cette séparation-là. Le régime de la survivance renvoie en lui non plus à un partage sensible, à une séparation instituée, mais à un partage du sensible comme une reconfiguration permanente. Alors, là, peut-être, de trois domaines. Et du coup, je pense à cette articulation entre l'espace privé, l'espace public et l'espace intime, à ces façons de recomposer ces trois situations-là. Alors, par rapport au local et au global, je ne sais pas très bien comment nommer cela, mais je trouve que les expériences que l'on peut faire, même individuellement, simplement à travers son téléphone portable ou la présence Internet ou des choses comme ça, sont aussi des façons dans lesquelles la recomposition de ces différents espaces est nouvelle et fait partie de nouvelles formes de sensibilité. Bon, voilà, moi, c'est juste des questionnements, des interrogations sur la façon de se représenter ces différentes sphères que ces deux exposés me suggèrent.
Donc moi j'avais une question par rapport justement aux politiques du sensible, c'est-à-dire le fait d'avoir abordé cette affaire par la compassion, par la résignation, par les termes que j'ai employés, me pose une question sur le fait que le sensible, ça pourrait être ce qui est mis en acte, enfin ce qui est justement du potentiel de réactivité. C'est-à-dire, je rejoins peut-être ce que dit Virginie, c'est-à-dire, dans sensible, il y a aussi interaction, réactivité, et donc quelque chose qui est de l'ordre d'une dynamique et d'une énergie, d'un potentiel qui fait que finalement, on n'est peut-être pas dans... dans ce que j'ai entendu, il me semble qu'on tordait le mot sensible vers le mot presque sensiblerie. C'est-à-dire, le dispositif, il ferait qu'on s'apitoie, qu'on se résigne et qu'on est en train de regarder les malheurs de cette société en décomposition. Donc, la question, c'est justement comment on peut utiliser ce mot, ce concept qui est bourré, au contraire, des potentiels et de chacun et du partage, c'est-à-dire du collectif là-dedans. Donc voilà. Donc il me semble que ça a échappé et ça tordait le mot sensible dans un sens peut-être qu'on n'a pas envie ou enfin qui le prive de sa performativité, si je puis dire. Bon. Et il y avait autre chose aussi dans ce qui a été dit sur le global local. Je suis en train de le perdre, j'ai noté ça. Sur l'esthétisation, même chose, l'esthétisation qui est une dynamique, qui est effectivement un processus dynamique, et qui fait que c'est quelque chose qui, pour moi, échappe quelque chose qui est du non-contrôle, qui échappe au collectif, aux individus. Elle ne peut pas être voulue, elle n'est pas pensée. L'esthétisation, c'est pour moi un résultat, c'est un effet. C'est un effet d'une mise en commun, ou d'un partage, ou de reconnaissance de signes, à un moment donné, qui sont partagés. Mais je ne suis pas sûre qu'il faut l'entendre comme un... comme quelque chose qui serait finalement assez pervers, enfin, qui empêcherait de voir le sens réel de l'action. Voilà. Donc là aussi, il me semble qu'on doit interroger ce mot.
Sur ce plan-là, juste, parce que, sur l'esthétisation.
Oui.
Non, mais il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que qu'elle ne soit pas voulue, bon, admettons, je veux dire, bien sûr, il y a des effets d'esthétisation.
C'est le processus même de la pensée.
Qui sont incongrus, ou qui sont inattendus, etc. Mais par contre, il y a un cadrage quand même, il y a une organisation, un encadrement de cette esthétisation, ne serait-ce que par les choix des objets, des œuvres architecturales, par exemple dans une ville. Enfin, il y a une collection de décisions culturelles et artistiques qui, quand même, chaque fois, déterminent ou prédéterminent, construisent un cadrage de cette esthétisation. Bon, alors, bien sûr, tout n'est pas dedans. D'accord, à ce moment-là, d'accord. Mais il y a encore un autre point, c'est que la dynamique de l'esthétisation ou le processus d'esthétisation, c'est aussi une affaire collective mentale dans laquelle on vit. Et ça aussi, c'est un problème, parce que ça n'a pas toujours existé. C'est un truc contemporain aussi. Je veux dire, le musée du Quai Branly, par exemple, c'est un très bel exemple de ça. Je veux dire, où les ethnologues sont obligés de se barrer pour laisser la place aux truands du marché de l'art. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est clair, quoi. Il y a une mentalité d'esthétisation qui est quand même propre à notre société contemporaine. Ça aussi, il faut en tenir compte.
C'est vrai. Non,
on peut pas.
Oui, mais
donc on peut pas non plus
sur le même sujet.